Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, Hervé Latsous tire sa révérence. Après 5 ans et demi à la tête des casques bleus, le diplomate français et secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix arrive au terme de son mandat. L'occasion de le recevoir dans nos studios, nous avons commencé par lui demander comment il a réussi à réduire le budget des opérations de maintien de la paix de plus de 7 milliards de dollars sans pour autant nuire à la conduite des opérations au quotidien.
Sans nuire à la conduite des opérations et sans abaisser le niveau des équipements ou des prestations. Tout simplement parce qu'avec nos collègues du département d'appui aux missions, nous avons cherché à être plus efficaces, nous avons renégocié des marchés, nous avons regroupé les moyens. Et je crois que c'est là quelque chose qu'aucune autre armée au monde dans la période contemporaine n'est parvenue à faire. Mais je crois qu'au total, nous avons vraiment fait le maximum pour offrir le meilleur service, entre guillemets, au moindre coût possible.
Vous avez souhaité amener les opérations de la paix au XXIe siècle, grâce notamment à des avancées technologiques. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples? Comment est-ce que ces technologies contribuent à ce que les casques bleus travaillent mieux et sauvent des vies sur le terrain?
Et aussi bénéficient d'une meilleure sécurité. Et là, je pense en particulier à quelque chose qui est en train de devenir standard dans la plupart de nos missions, qui est le recours à des drones de surveillance aérienne. Des drones non armés, bien entendu, mais qui nous permettent de savoir de manière beaucoup plus précise ce qui se passe. En lien avec ça, nous avons développé, notamment au Mali, mais aussi au Congo, une politique du renseignement plus proactive. Et puis, nous utilisons des systèmes de détection, notamment des radars de trajectographie pour repérer les tirs de mortiers ou de roquettes. Nous utilisons en ce moment, par exemple, à Bangui, des ballons captifs qui portent des batteries de senseurs optiques infrarouges et qui nous donnent une vision très précise de ce qui se passe dans la capitale de la République centrafricaine. Voilà quelques exemples. Mais c'est surtout un changement de culture, voyez-vous. Oui, vous avez raison d'utiliser cette expression. Je crois que nous avons réussi à faire entrer le maintien de la paix dans le XXIe siècle et c'est comme ça que cela doit être.
Est-ce que ces apports permettent d'avoir un temps de réaction plus rapide?
C'est l'objectif. Je reviens à ces drones de surveillance aérienne maintenant. Dans l'est du Congo, dans les Kivu, les opérateurs humanitaires eux-mêmes ne lancent plus un convoi sans nous demander au préalable les images de ce qui se passe au long de l'itinéraire qu'ils vont parcourir. Donc je crois que voilà, c'est quelque chose qui est maintenant bien ancré dans les réflexes de nos collègues.
Alors, parmi les réussites au cours des 5 ans et demi de votre mandat, vous notez le recrutement accru de ressortissants du Nord et de l'Union européenne plutôt que du Sud parmi les casques bleus. Cependant, les femmes sont encore sous-représentées dans les missions de maintien de la paix. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et ce qu'il faut faire en fait?
D'abord, oui, c'est vrai qu'il y avait vraiment une situation dans laquelle le fardeau n'était pas partagé de manière équitable il y a 5 ou 6 ans. On n'a pas encore totalement surmonté le problème, on a réussi à améliorer la situation grâce à la participation beaucoup plus marquée de pays européens ou nord-américains une fois qu'ils sont sortis d'Afghanistan, ce qui libérait des moyens. Sur les femmes, c'est vrai que malgré beaucoup d'efforts, les résultats sont encore assez peu probants. Mais après tout, les armées du monde, grands pays comme petits pays, sont des institutions peu féminisées. Donc la sociologie, si vous voulez, des pays qui contribuent, des troupes, des policiers, nous pouvons difficilement faire beaucoup mieux que ces pays-là. Alors c'est un peu moins difficile dans le cas de la police, où j'ai fixé des objectifs de 20% de femmes assez rapidement. On va essayer de faire la même chose pour les observateurs militaires, pour les officiers d'état-major. Mais ça va être, je pense, plus laborieux. Mais c'est absolument une priorité, évidemment.
C'est important.
C'est important. Et je vous citerai un exemple qui, quelque chose qui marche très bien. Nous l'avons testé au Congo, au Libéria, en Haïti, par exemple. Ce sont des compagnies de police, des unités constituées, entièrement composées de femmes. Et dans des situations de crise comme celles que connaissent ces pays, dans lesquelles les femmes, sans doute, souffrent proportionnellement beaucoup plus que les hommes, sont en tout cas beaucoup plus directement menacées, et puis molestées, et puis hélas violées parfois. Le fait que ce soit des policiers femmes qui puissent interagir avec elles, je crois, est vraiment une bonne approche et une que nous apprécions.
Youhou, youhou,
Plusieurs missions arrivent à leur fin, Côte d'Ivoire, Libéria, en octobre, probablement Haïti. Est-ce que leur départ est positif? Est-ce que ces missions sont des exemples de réussite de l'ONU?
Oui, je crois qu'on peut le dire. Mais souvenons-nous, il y a quelques années, de la Sierra Leone aussi. Ce sont des missions dans lesquelles nous avons fait le job. Et bon, dans le cadre des priorités qui nous avaient été données, ça ne veut pas dire que tous les problèmes que connaissent tel ou tel de ces pays sont réglés d'un coup de baguette magique. Non, mais ça veut dire que nous avons fait ce qui nous était demandé, c'est-à-dire ramener la stabilité, c'est par là que ça commence, n'est-ce pas? Et puis que nous avons, par exemple, renforcé l'état de droit, recréé ou formé une police nationale, des institutions judiciaires, et puis améliorer le respect des droits de l'homme. Voilà, ce sont nos principales priorités, et je crois que dans les cas de ces trois pays, c'est effectivement le cas. La Côte d'Ivoire de 2017, même s'il a eu quelques problèmes en début d'année, n'a plus grand-chose à voir avec la Côte d'Ivoire de l'hiver 2010-2011. Ça montre qu'il y a des cas où ça marche bien.
Vous avez parlé de maintenir la paix dans des pays où il n'y a pas de paix à maintenir, en fait.
Hélas, oui.
Comment faire pour mener à bien le mandat de l'ONU, par exemple, dans une situation comme celle du Mali, où on sait que la mission est la plus meurtrière?
Je crois que, d'abord, nous devons, en chaque occasion, et c'est ce que j'ai fait moi-même au Mali il y a 8 jours, rappeler qu'il s'agit d'abord d'un processus politique. En l'occurrence, un accord de paix qui a été long à négocier, qui est très long et très lent à mettre en œuvre. Mais voilà, c'est cela l'objectif et nous devons y mettre tous nos moyens. Deuxièmement, il faut évidemment tenir compte de la nature de la menace. Et là, au Mali, elle est asymétrique. Donc nous avons dû, et nous continuons, à investir massivement dans les équipements, dans la formation, pour faire face à cette menace sournoise, permanente, que sont les mines, les explosifs improvisés, les attaques improvisées à la roquette ou au mortier. La sûreté et la sécurité de nos personnels, c'est vraiment quelque chose sur quoi nous ne pourrons pas transiger. Et donc, il nous faut nous adapter, mais c'est vrai que démarrer une mission en l'absence d'un véritable processus politique, en l'absence d'un accord de paix formel, face à des interlocuteurs qui souvent, de plus en plus, n'ont pas de statut gouvernemental et qui se moquent assez largement du droit de la guerre, du droit humanitaire, et n'ont aucun scrupule à nous attaquer. Au Mali, nous sommes la cible d'Al-Qaïda et de tous ces mouvements djihadistes, et c'est évidemment un énorme défi.
Vous avez évoqué également le manque de collaboration des pays hôtes des missions, à l'instar de la MINUS au Soudan du Sud.
Oui.
Quel impact a ce manque de collaboration sur la capacité de la mission de mener à bien son mandat et quelle réponse doit-on apporter?
Le Sud-Soudan en est une bonne illustration. Encore hier, 6 travailleurs humanitaires d'une ONG ont été assassinés alors qu'ils se rendaient dans l'état de Jonglei. Le fait que nous n'ayons pas la parfaite collaboration des autorités sud-soudanaises est un énorme handicap pour la mission. Nous ne pouvons pas faire un certain nombre de tâches qui nous reviendraient, consistant à aller voir quand on entend dire qu'il y a eu des combats dans tel ou tel secteur. Nous avons le devoir d'aller observer ce qui se passe et faire rapport, y compris sur les violations de droits de l'homme qui ont pu être commises. Mais quand on nous dit non, eh bien, clairement, on s'oppose à l'exécution du mandat. Donc moi, je dis, il y a là un véritable défi à l'autorité du Conseil de sécurité. N'oublions pas qu'il s'agit de résolutions qui sont passées sous le chapitre 7 de la charte et qui donc s'imposent absolument. Alors, le souhait que je pourrais former, c'est que le Conseil de sécurité ne laisse pas ainsi impunément bafouer son autorité et que, le cas échéant, par exemple, des sanctions soient prises contre ceux qui s'opposent à la mise en œuvre du mandat. Je crois qu'on ne fera pas l'économie de ce type de mesures.
Par rapport au Soudan du Sud aussi, on a vu en juillet dernier ce qui a été dénoncé comme un manque de leadership qui a en fait empêché de porter secours lors des violences à Djouba. Est-ce que cela a été réglé, remédié?
Oui, dans une très large mesure, l'équipe qui avait investigué les événements assez dramatiques de juillet dernier à Djouba a fait un bilan de tout ce qui avait été fait par la MINUS pour mettre en œuvre les recommandations Et on constatait que les choses avaient bien changé. Et j'ai moi-même constaté, sur place, de nouvelles procédures, évidemment, mais une nouvelle attitude de la mission. Donc je crois qu'il faut en féliciter nos collègues et espérer que, d'abord, il n'y aura pas de résurgence d'événements tels que ceux de juillet dernier. Et deuxièmement, que si malheureusement ça va être le cas, oui, la réaction sera très différente, car je n'oublie pas, et il ne faut pas l'oublier d'ailleurs, que s'il y a eu des victimes en juillet, des victimes qui auraient sans doute pu et dû être évitées, mais nous avons quand même défendu les 200 000 quelques personnes déplacées qui sont agglutinées sur nos bases ou autour de nos bases. Si nous n'avions pas en permanence ce souci vis-à-vis de ces groupes très importants, je crois que beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont sur nos sites de protection des civils ne seraient plus de ce monde aujourd'hui.
Vous avez évoqué la RDC en parlant des nouvelles technologies et d'une capacité de réponse et de l'adaptation de la mission. Mm-hmm. La RDC qui est une des plus grandes missions donc, de l'ONU et qui traverse une crise politique importante. Alors comment est-ce que la mission s'adapte ?
D'abord, c'est vrai qu'elle a un rôle important en appui de l'action des médiateurs. C'est la conférence épiscopale. Nous essayons de l'aider dans ses tractations avec les différents partenaires congolais. Nous sommes en permanence en facilitation et en soutien. Mais nous avons aussi des responsabilités en termes de sécurité et de stabilité. Et ces temps-ci, nous avons en face de nous des défis particuliers parce que dans les provinces de l'Est, c'est-à-dire dans les Kivu, il y a moins de militaires et moins de policiers congolais, donc les choses, nos responsabilités se sont trouvées en quelque sorte alourdies. Et puis maintenant, il y a le centre du Congo, notamment les Kasaï, où une situation très préoccupante s'est développée depuis 3 mois. Donc ça nous montre plus que jamais à quel point il est important d'être agile et mobile, c'est-à-dire capable de redéployer des unités de soldats ou de policiers à très bref délai pour faire face à ce type de pic de violence. Mais surtout, n'oublions pas que c'est une année sensible qui doit déboucher sur des élections très importantes et que, traditionnellement, un peu partout, mais notamment en RDC, une année électorale, ça veut dire une année de tensions accrues. Donc, il nous faut être très réactifs et capables de bouger rapidement.
La question de l'exploitation et des abus sexuels par le personnel de l'ONU, que ce soit RCA, RDC ou en Haïti, a été fortement dénoncée par les médias et a entaché l'image des casques bleus. Pensez-vous que le département de maintien de la paix a traité cette question correctement et qu'il est désormais sur la bonne voie pour se débarrasser de ce fléau ?
D'abord, je dois évidemment redire avec force à quel point c'est inacceptable de tels faits. Lorsqu'ils sont avérés, ça veut dire que l'attitude lamentable, méprisable de quelques-uns, rejaillit sur la grande majorité de nos casques bleus qui sont des gens qui se dévouent sans compter. Je note au passage que les cas d'abus sexuels, c'est pas seulement l'affaire des casques bleus, c'est aussi dans de nombreux cas des civils. Donc il y a un effort systémique. On avait déjà fait beaucoup. Le secrétaire général a publié récemment un plan d'action qui va encore plus loin et que nous allons évidemment mettre en œuvre sans la moindre hésitation. Ceci étant, dans ce genre d'affaires, je n'oublie pas que les responsabilités sont bien sûr les nôtres, mais elles sont aussi et tout autant celles des États contributeurs de troupes. C'est eux seuls qui peuvent lancer des poursuites judiciaires quand un dossier est constitué. Donc il nous faut renforcer notre dialogue avec ces pays contributeurs, et c'est ce que nous avons fait et que nous continuerons à faire. Nous avions une politique de tolérance zéro. Je crois qu'il faut viser un objectif de zéro occurrence, zéro cas.
Mais les pays contributeurs sont réceptifs ?
Je crois qu'ils sont réceptifs. Pour ça que je dis, par exemple, depuis un an, ça n'est pas encore acté, mais on devrait, au recrutement d'un casque bleu, de même qu'on prend un échantillon de sang pour savoir à quel groupe sanguin il appartient, on devrait récupérer et mettre sous clé un échantillon d'ADN qui, par la suite, pourrait permettre d'identifier des cas de paternité et, a fortiori, des cas de viol.
Vous arrivez à la fin de votre mandat. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ?
Oh, c'est peut-être pas tout à fait en ces termes que ça se pose, parce que, vous savez, le maintien de la paix, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Je crois que ce qu'il faut surtout, c'est réaliser à quel point c'est une affaire d'engagement. et de vraiment exprimer mon immense gratitude à tous nos collègues ici au siège, sur le terrain, qui se dépensent vraiment sans compter pour remplir leur mission. Je crois qu'il y a peu de contextes dans lesquels on trouve un pareil degré de dévouement et d'engagement personnel, de courage aussi. Donc voilà, c'est ça le sentiment qui domine. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, c'est pas un métier de tout repos, mais que je n'en regrette pas un instant.
Et c'est ainsi que se termine le mandat d'Hervé Latsous à la tête des Casques Bleus, ainsi que cette édition d'Escale. Escale, un magazine hebdomadaire d'ONU Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.